Embarquement immédiat pour G comme Odéon. L'émission des Good Gone qui cause culture sur lyondemain.fr.
Julien Dumont, directeur du musée.
Donc nous sommes ici au musée du cinéma et de la miniature. Ici, dans le Vieux-Lyon, on est dans un lieu patrimonial. Hein, c'est une maison renaissance. On disait un grand musée qui présente aussi énormément de pièces de qualité, mais il n'y a que 10% de la collection qui est montrée ici.
Et oui, alors ça c'est la problématique, il y a beaucoup de musées, mais pour avoir depuis plus de 25 ans collecté à travers Badan, le fondateur, et moi-même en tant que collectionneur, de nombreux objets liés au cinéma, la miniature, et avoir la chance avec la renommée du musée d'avoir des réalisateurs comme Wes Anderson qui nous cèdent leurs miniatures de leurs films, les collections se remplissent très vite.
Alors on ne peut pas pousser les murs, mais on peut faire des expositions temporaires qui font tourner un petit peu les objets.
Exactement, le but c'est d'avoir des icônes au musée que les gens seront quasiment sûrs de toujours voir. Je pense à la caméra d'Hitchcock, je pense au maquillage de Mrs. Doubtfire, enfin voilà des objets que les gens adorent vraiment.
Alien, évidemment, aussi, les salles font beaucoup d'effet aux enfants.
La reine Alien d'ailleurs qui va être entièrement redécorée, là on est en train de faire un vaisseau spatial interactif pour la mettre en valeur, donc ça va être assez spectaculaire.
Alors il y a beaucoup de métiers qui travaillent dans votre musée. Non seulement bien sûr les gens qui vont travailler sur les décors, les miniatures qui sont encore extrêmement présentes, mais aussi des décorateurs, toutes sortes de métiers.
Exactement, alors c'est vrai que moi étant...
Il faut être un peu polyvalent.
Tout à fait, alors moi qui à la base est producteur et réalisateur, j'ai conçu un peu l'équipe du musée comme une équipe de film en fait. Et on est comme sur un tournage perpétuel, on a tous les corps de métiers et qui nous permettent d'avancer... dans ces créations qui sont en fait très très proches du milieu cinématographique.
Alors là, on est dans un univers qui est très particulier, puisque, on l'a dit, on est dans un lieu patrimonial, bien sûr, mais vous allez nous plonger dans un univers très pop avec cette nouvelle exposition, ou cet hommage, finalement, rendu à Drew Struzan, que personnellement je découvre aujourd'hui, enfin je découvre son nom, je ne découvre pas ses images, hein, pour être tout à fait clair. Pourquoi je connais aussi bien ces images, à votre avis ?
On peut considérer Drew Struzan comme le plus grand artiste ayant travaillé sur les affiches de films du XXe siècle et du début du XXIe. Et avec Drew, on a tout un imaginaire de ces 40 dernières années du cinéma qui nous est gravé dans notre mémoire. Que ce soit voilà, des albums de musique tels que Alice Cooper, quand il a peint les premiers albums, quand il a fait les affiches de The Thing, quand il a fait les affiches de Star Wars, Indiana Jones, Retour à le futur. On a ces affiches gravées en nous, en fait. C'est pas seulement le style incroyable de Drew qu'il a quand même créé. Hein. C'est là où on voit les génies, souvent, c'est qu'il crée un style et il y a un avant et un après. Et c'est très dur de faire du Drew Struzan après Drew Struzan, puisqu'il a vraiment... son style est juste incroyable. Il y a ça, il y a la technique, il y a le travail fabuleux aussi avec Christian, son fils, en tant que directeur artistique, sur la composition des affiches, la lisibilité de l'affiche. Et le storytelling, en fait, raconter une histoire dans une affiche. L'affiche de film étant le premier média qu'on observe en tant que spectateur, on découvre ça avec impatience et l'affiche nous donne envie d'aller voir le film. C'est sûr que maintenant c'est un peu plus différent, en fait, les médias changent, le mode de fonctionnement change, mais à l'époque, l'affiche était notre seul point de repère, quasiment, avec la bande-annonce. Et je pense que ouais, Drew m'a donné envie d'aller voir des films encore plus que les bandes-annonces. En tout cas, c'est des choses qu'on gardait dans notre chambre et qu'on gardait précieusement.
Ce sont des films, évidemment, très grand public, hein, mainstream, on est complètement en fait, dans cette idée de l'univers du cinématographe américain, avec George Lucas, évidemment. On a la saga, bien sûr, de Star Wars, la saga des aventuriers de l'Arche perdue, enfin bref, d'Indiana Jones plutôt, d'un cinéma extrêmement populaire qui va faire des millions et des millions d'entrées. Mais on ignore, et on ignorait finalement, le nom de ce dessinateur.
Exact. Alors, je reviens un petit peu en arrière sur le côté américain. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que Spielberg et Lucas s'inspirent toujours de l'Europe. On parle de l'inspiration de Mézières pour Star Wars. Lucas est un des plus grands collectionneurs de BD franco-belge. Il va ouvrir bientôt le musée de narrative art à Los Angeles et je pense qu'il y aura des pépites. Et c'est assez intéressant de voir à quel point nous, on revendique le côté américain et eux revendiquent le côté européen.
Il y a un documentaire d'Arte qui traite de ça, justement, par rapport à Indiana Jones, évidemment. Et on retrouve notamment les tribulations d'un Chinois en Chine, etc. Enfin, et Tintin. Évidemment, bien sûr.
Chez Spielberg, on a Truffaut qui est invité en guest star sur Rencontre du Troisième Type. Passionné par la nouvelle vague, Spielberg, il dira toujours qu'il a réalisé E.T. comme un film français. Ça nous paraît toujours assez lointain, nous, quand on entend ça. Mais ça prouve à quel point la pop culture au sens général, en fait, je vais être assez simple et assez radical, mais les bons films voyagent. Et est-ce que le film est juste son lieu de naissance avec sa père ou son inspiration? Après, c'est à vous de décider, enfin, au spectateur de décider. Mais c'est sûr que Drew, on a vraiment un focus sur lui et comme aucun musée ne l'a fait avant nous. Alors que c'est...
Ça, justement, c'est assez européen, j'ai l'impression quand même, de vouloir rendre hommage, rendre à César ce qui appartient à César. Moi, j'ai l'impression quand même qu'aux États-Unis, on fait partie d'une industrie, et si on est invisibilisé, c'est pas un problème. Finalement, on va mettre en avant des stars, on va mettre en avant des réalisateurs, mais finalement, toutes les petites mains qui travaillent, comme celles qu'on a évoquées en début d'interview, finalement, dans votre musée, on n'en parle jamais.
Surtout que là, on touche au domaine du marketing, et le marketing est très codé et très réglementé, et Drew a eu beaucoup de mal à signer déjà ses affiches. C'est-à-dire qu'au tout début, il avait fait un pictogramme qui s'appelait Strozen Studio, une sorte de carré en forme de S, qui cachait dans les toiles pour avoir sa signature dans la toile. Et progressivement, en gagnant notoriété, il a signé ses affiches. C'était même un argument marketing sur la fin, donc c'est un peu le revers de... Enfin, le cycle qui se finit.
Oui, parce que finalement, ces images appartenaient à la prod. Finalement, appartenait à George Lucas Film.
Exactement, et c'est là où, pour nous, en tant que musée, c'était très dur d'avoir des originaux, de les faire venir à Los Angeles, dans des collections, pour pouvoir permettre aux gens de les observer, parce que les originaux sont souvent gardés par les studios, sont partis chez les collectionneurs.
Il a fallu convaincre.
Exactement. Mais pour moi, encore plus que les originaux, d'avoir tous ces outils perso qu'il a utilisés pendant 40 ans, qu'il a précieusement gardés, protégés, d'avoir tous les crayons qu'il a utilisés, ses pinceaux. Voilà, ça, c'est encore plus touchant même que les originaux. C'est son matériel perso. Et ça, c'est chouette.
Au cœur de l'exposition, des objets. Ça, c'est important aussi de le dire. Il n'y a pas que des affiches, il n'y a pas que des visuels. Il y aura aussi des objets, des personnages aussi. Hein. Je ne révèle pas trop, mais il y aura quand même une projection aussi. Est-ce que vous voulez nous en parler rapidement?
Exact. Alors, on a voulu cette expo... transmédia, alors il y a plein de termes maintenant, c'est un peu la mode, immersive, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais moi je suis plus viscéral, j'ai envie d'une expo qui soit multisensorielle. Voilà. On a créé des visuels en 3D, on a généré avec le studio Titan Film à Genève, qui est une autre partie aussi de mon travail dans le cinéma, des visuels augmentés sur les affiches grand format, qui sont une première mondiale aussi, hein. On n'a jamais printé en grand format, en digigraphie, ces affiches-là. On a aussi des objets de tournage originaux qui vont répondre aux œuvres d'art de Drew. Quoi de plus beau, mais ça c'est une sorte de coïncidence magique, mais de pouvoir exposer la chaussure originale de Marty McFly, qu'il a certainement portée lors du shoot qui a servi de référence pour l'affiche du film, ben voilà, je pense que ce qui est génial, c'est que les fans de Retour à la Future seront conquis, les fans d'illustration seront conquis, et même les fans de sneakers seront contents. Donc voilà, plein d'objets, et il faut que ça plaise à tout le monde, et c'est le but du musée. On a zéro élitisme au musée. Nous, le cinéma, c'est un des rares populaires qui n'appartient qu'aux spectateurs. Et un peu aux critiques cinéma, mais surtout aux spectateurs. Et voilà, le musée est à l'image un peu des gens qui font le musée, c'est-à-dire plein de différentes inspirations. Et il faut que voilà, ça plaise avant tout.
L'exposition sera présente ici, au musée, jusqu'à quand?
Jusqu'au 31 décembre.
Alors, il faut en profiter. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
J'ai comme Odéon est une émission proposée par Gaël Bossier-Lombard à retrouver sur liondemain.fr.